Jacques Brel, Georges Brassens, Léo Ferré, ils sont là, mais oui, tous les trois ensemble, ce lundi après-midi, 6 janvier de l'année 1969, dans le salon d'un appartement du 6e arrondissement de Paris. Leur seule et unique rencontre à trois, montée pour un mensuel de rock et de chansons. Sur la table, de la bière, des cigarettes, du tabac à pipe, un gros cendrier et quatre micros. Cette rencontre de géants a été enregistrée, puis diffusée pour partie en 1969. Pour la première fois, nous vous proposons l'intégralité de ce document unique, de ces propos d'hommes et de poètes, bien dans leur époque, la fin des années 70, 7 mois auparavant, c'est mai 1968, Léo Ferré a 52 ans, Brassens 47, Brel 39. C'est Léo Ferré que j'avais le premier convaincu de l'intérêt de ce sommet. Puis j'avais abordé Brel et Brassens par petites touches, l'un dans le studio où il enregistrait la bière, l'autre dans les coulisses d'une salle de province. Et je leur avais écrit, téléphoné, écrit encore, une première date, puis une seconde avait été envisagée, la troisième fut la bonne. Et ils étaient là, autour des micros, pour une rencontre à la Bonne Franquette, ces trois géants de la chanson, tous les trois publiés dans une grande collection de l'époque, les poètes d'aujourd'hui. Georges Brassens, Jacques Brel, Léo Ferré, je crois que c'est la première fois que vous êtes rassemblés autour d'un micro ensemble. Jusqu'à maintenant, on vous avait vu deux par deux, mais jamais tous les trois.
Oui, vous êtes le seul à avoir réussi ce tour.
Merci. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est si vous êtes conscient du fait que vous représentez tous les trois plus grands poètes, les trois plus grands auteurs-compositeurs, interprètes de la chanson française, et ceci depuis des années. Et avec le même succès.
Si vous permettez, moi je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis conscient.
Oui.
Moi personnellement aussi, aujourd'hui, je suis conscient d'être avec deux de mes confrères d'abord. Je dis confrères,
qui
ont un immense talent. Et puis d'être pour. Je crois que ça commence aujourd'hui. Et puis j'ai des idées derrière la tête d'être avec deux copains. Et ça, il y a longtemps que je le veux.
Que vous le désiriez.
Voilà. C'est l'époque où on dit qu'est-ce que c'est pour vous la chanson, qu'est-ce que c'est pour vous la bretelle, n'est-ce pas? On s'en fout.
Oui, bien sûr.
L'important, c'est, je crois, c'est un peu d'amour qu'on peut distribuer ou recevoir comme ça, de temps en temps, comme ça, au hasard même d'un micro, et ça c'est important. Maintenant que nous fassions des chansons avec depuis 20 ans, tous les trois, et qu'on ait travaillé beaucoup, qu'on ait, comme on dit chez moi, zugumé sur le métier longtemps, et que se soit emmerdé longtemps aussi pour faire ce métier, et si aujourd'hui, on peut chanter tranquillement dans une salle sans avoir ni les flics, ni les gens qui viennent siffler, ou même s'ils viennent siffler, d'ailleurs, ça devient un honneur pour nous, et bien, ce n'est que justice, et puis on n'a pas besoin de casser les vitres pour le dire, vous comprenez.
Et vous êtes quand même tous les trois dans la collection Les Poètes d'aujourd'hui, c'est un fait, vous ne pouvez pas le nier.
Oui, mais enfin, ça, on n'est pas les seuls.
Sens, oui.
Et puis, enfin, ça ne veut pas dire grand-chose, vous savez, cette façon de compartimenter.
Vous ne vous prenez pas pour un poète, alors, Georges Brassens?
Pas tellement, non.
Non.
J'écris mes chansons, on a déclaré que j'étais un poète, moi je fais des chansons. Je ne sais pas si je suis poète, il est possible que je le sois un petit peu, mais enfin, peu m'importe, je chante. Je mélange des paroles et de la musique et puis je les chante, c'est pas tout à fait pareil.
Mais Jacques Brel a une idée, je crois, là-dessus aussi. Lui aussi se défend d'être un poète.
Oui, mais je suis chansonnier.
Vous avez dit que vous étiez un petit artisan de la chanson.
Je suis un artisan de la chanson.
C'est ça. Oui.
Mm-hmm. Cela dit, un poète, si on me dit que je suis poète, ben je veux bien. Comme si on me disait que j'étais, je sais pas, un cordonnier qui fait de bonnes chaussures, un artisan. Et je rejoins le
point de vue de Jacques Brel, oui.
Ben oui, Brassens a dit une chose vraie. Il a dit, moi, je mélange des paroles et de la musique.
C'est ça.
Et voilà ce que je fais. Mm. Et c'est ça le seul problème.
Oui, la chanson, c'est des paroles et de la musique mélangées et chantées.
Et chantées,
oui. Ce sont des chansons.
Voilà.
C'est tout à fait différent de ce qu'on appelle couramment la poésie.
Oui,
la poésie est quand même faite pour être lue ou pour être dite. La chanson, c'est très différent.
Oui,
on ne peut quand même pas tout à fait, bien que par exemple des types comme Ferré le fassent, mettre par exemple Baudelaire en musique, mais il est quand même assez difficile d'utiliser la chanson comme les poètes, les poètes qui nous ont précédés, utiliser le vers. Vous voyez, parce que quand on écrit pour l'oreille, on est quand même obligé de choisir un petit peu, d'employer un vocabulaire un peu différent, des mots qui accrochent l'oreille plus vite.
Oui.
Alors que le lecteur a la possibilité de revenir en arrière, vous me direz, avec le disque, on a aussi la possibilité de revenir en arrière. Mais enfin, on a
le disque est un sous-produit de la chanson.
Oui.
Je le comprendrais bien, moi je suis de son avis. Exactement, si vous êtes de bon chocolat, oui, chocolat extraordinaire, hors commerce, et puis que vous les gardez chez vous, à partir du moment où vous mettez dans un paquet, eh bien, vous les mettez dans le commerce, à ce moment-là, ça ne vous intéresse plus. Moi, si j'ai fait des bons chocolats, que les autres les mangent, je m'en fous. Vous voyez, et alors, à ce moment-là, c'est le paquet, c'est le disque.
Oui.
Ben, le disque, c'est un peu la mort de la musique. J'aime bien qu'il dise ça parce qu'il est un peu de mon ami.
Autrefois, on chantait, quand un type faisait une chanson et qu'elle plaisait, les gens se la chantaient, se la passaient, se la prenaient.
Oui, oui.
Aujourd'hui, c'est un peu différent. Le public est devenu plus passif.
Absolument.
Autrefois, ils participent et ils avaient des cahiers de chansons.
Oui. Il y a des gens qui reçoivent d'abord la musique ou d'abord les paroles. Les gens les plus intelligents reçoivent d'abord les paroles. Les gens les plus sensibles et peut-être les moins intelligents, ce qui est possible aussi, reçoivent d'abord la musique, ils écoutent les paroles après. Alors ce qui fait que ça fait connaître, et j'ai fait connaître Baudelaire à des gens qui ne savaient pas qui était Baudelaire. Oui, on comprenait ça.
Autrefois, quand un type écrivait une chanson, les gens la reproduisaient. Et maintenant, c'est nous qui nous reproduisons.
Ah, oui. Vous disiez tout à l'heure, on est poète, on est artisan, tout ça. Non, vous savez ce qu'on est tous les trois?
Des pauvres connards devant
des micros. Oui. Non, on est des chanteurs.
C'est Brassens.
On est des chanteurs.
Ça.
Parce que si on n'avait pas de voix, on ne pourrait pas se publier. Parce que si tu n'avais pas de voix, tu ne crierais pas. Et moi non plus.
Tu n'as pas de voix. Tu es bien gentil de me dire ça, mais enfin,
c'est
pas terrible.
Tu as de la voix, tu chantes. Lui aussi, s'il n'avait pas de voix, qu'est-ce qu'il irait chanter les chansons de Brel? Tout ce qu'il fait, il n'écrirait pas. Il n'écrirait pas tout ce qu'il a écrit, parce qu'il a écrit ses...
Oui, il aurait sûrement écrit d'autres choses.
Parce qu'il les a publiées avec sa voix. Et moi aussi, c'est pareil. Vous comprenez? Moi, on est plus ou moins chanté par des gens, mais en fait, c'est pas assez.
Ça veut dire qu'on est peut-être chanteur, justement, parce qu'on a de la voix.
Est-ce que vous avez fait dans votre vie autre chose que de chanter, d'écrire ou de composer? Et est-ce que ça, à un moment donné ou à un autre, ça vous sert dans votre métier actuel?
Moi, je pense que tout sert. Singulièrement les choses malheureuses.
Oui.
Le petit bonheur aussi sert, mais enfin, quand ils sont moins nombreux.
Oui, puis le petit bonheur, c'est plus banal que les choses malheureuses, c'est ça.
Non, je ne parle pas des impressions, je parle vraiment d'une autre passion.
Des choses qu'on fait.
D'une autre passivité, d'une autre activité, presque d'un autre métier.
Ah oui, mais alors je crois que parallèlement, on ne peut pas faire autre chose. Mais dans ce qu'on a fait avant. Parce qu'on l'a fait avant, on a tous fait des études, on a tous été à l'école, on a fait des trucs. Et puis
on a vécu, quoi.
Et vous tournez la page et vous faites de la chanson.
Moi, je n'ai jamais rien fait que ça.
Vous avez plus ou moins fait du cinéma, je crois, tous les trois. Le fait de jouer la comédie ou le fait de se comporter en acteur peut servir à un moment donné pour vous comporter sur scène, ou est-ce qu'il y a des liens entre le comédien et l'acteur? Et le chanteur, pardon.
Moi, je ne sais pas. Brel doit le savoir. Moi, je ne sais pas parce que je n'ai jamais joué à la comédie. C'est une chose qui m'inquiète, qui m'intrigue. Mais j'aimerais bien. Et je crois que je ne saurais pas le faire.
Oui.
Mais c'est comme on aimerait faire une chose qu'on ne sait pas faire.
J'ai fait deux films, pas pour faire du cinéma, parce que deux fois, il y avait une petite idée de liberté. Je suis très attaché à des petites idées de liberté.
Oui.
Et c'était le risque du métier qui était une forme de liberté, enfin une forme d'accusation. J'avais lu un certain nombre de dossiers avant, selon bon. Et l'autre fois, c'était la bande à Bono. C'est l'idée qui me séduit.
Oui. Parce que tu veux dire, quand tu tiens ton rôle, quand, au moment où tu es sorti, la réplique ou les répliques, t'es aussi seul que quand t'es dans une salle, tout seul, avec un projecteur, parce que c'était tes chansons pendant deux heures.
Oui.
T'es aussi seul.
Oui,
c'est nouveau, c'est pour moi, parce que ça, je ne me rends pas compte.
Bah oui, c'est vraiment, parce que s'il n'est pas bien, on dira qu'il n'est pas bien, tu vois, il faut quand même qu'il fasse, qu'il pousse son cri, il faut qu'il...
Oui. Mais donc, il est dans sa carapace au moment où...
En plus, là, c'est un peu différent, parce que c'est moi qui ai provoqué cette folie.
Oui, d'accord.
Donc, c'est un peu différent.
Oui, oui.
Alors, je reste un peu seul avec ma folie.
Oui, d'accord, c'est bien.
Les autres la partagent pas?
Si, ils la partagent.
Oui.
Mais il est vraisemblable qu'ils ne considèrent pas tout cela comme une folie.
Ils le prennent au sérieux.
Ben, il y en a peut-être qui prennent. Je ne sais pas comment ils le prennent. Enfin, c'est très difficile. Hein, c'est pas difficile. Enfin, moi, je suis aussi seul qu'autour de champ. Voilà.
Aussi.
Ah oui.
Ça, c'est
dans l'instant où on joue.
Ne t'inquiète pas, quand on joue. Tu es tout seul partout.
Oui, tout le temps, mais toute la vie dans son.
Et il n'est pas le seul, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Ça ne me modifie rien. Un type qui me dit qu'il n'est pas seul dans la vie, c'est que. Qu'il est plus belge que moi, quoi.
Parce qu'il faut être solitaire et malheureux pour faire de grandes choses.
Ah oui. Ah oui. Les seules choses valables sont dans la tristesse et dans la solitude. Et puis je crois que l'art, c'est une excroissance de la solitude. Les artistes sont seuls.
C'est un brave homme qui est totalement inadapté et qui n'arrive qu'à dire publiquement ce qu'un type normal dit à sa bobonne le soir.
Voilà.
C'est une haute forme de timidité. Il y a des tas de mots pour ça. C'est un timide, c'est un type qui n'ose pas aborder les choses de face et qui n'arrive qu'à dire publiquement ce qu'il devrait dire d'une manière courante dans la vie.
Mais le fait, la timidité s'accompagne toujours d'une certaine pudeur.
D'une certaine pudeur, d'un tas de trucs.
Et un peu d'orgueil aussi.
Et d'orgueil, bien sûr. Oui. Bien sûr, parce que comme il ne parle pas publiquement, en principe, n'est-ce pas, il entend dire tellement de sottises qu'il finit par en retirer un certain orgueil. C'est une chose qui se fait... C'est très médical, enfin, je trouve. C'est très clinique, l'artiste. En gros, mais c'est comme ça. Cela dit, le pire, c'est l'artiste qui n'est pas artiste. C'est-à-dire que le timide, qui en retire un certain orgueil et qui ne pompe pas son œuf. Alors là, c'est effroyable.
Nous sommes des hommes publics. Bon, moi je veux vous raconter une histoire. Hein. Chaque fois que je rencontre dans la rue une femme qui vend son corps aux gens, c'est-à-dire une putain, hein, et si elle me reconnaît, elle me fait jamais l'article. Et j'ai longtemps cherché pourquoi, et j'ai trouvé. Vous savez pas pourquoi? Parce que je fais le même métier qu'elle. Parce que je vends quelque chose de mon corps. Quand on est sous les projecteurs, les gens payent, ils vont ils achètent un billet, ils viennent vous voir, ils attendent ou que vous leur plaisiez ou que vous cassiez la gueule. De toute façon, ils attendent quelque chose. Mais ils attendent vous avec votre corps, avec votre chose, et vous vendez quoi? Votre voix. Hein? Eh bien, entre le dessous et le dessus, il n'y a pas tellement de différence. Voilà pourquoi les putains ne me font pas l'article quand elles me reconnaissent.
De toute façon, en gros, elles sont aussi artistes que nous et nous sommes aussi plus punks.
On t'a chanté sur tous les tons. Il y a plein de paroles dans tes chansons.
Bon, est-ce qu'on peut dire que dans ce métier, vous avez toujours fait ce que vous vouliez faire?
Sûrement pas.
En quel sens?
Moi, si je voulais faire le métier comme je le fais, je viderais les salles. Alors, je fais aussi des concessions.
Ouais. Ah oui, tu entends par là que tu ne dis pas exactement tout ce que tu veux.
Non.
Tu ne dis pas comme tu veux, oui, bien sûr.
Enfin, je veux dire que j'arrête un certain moment, quoi. Parce que on est fait comme ça, et encore, je ne me gêne pas, moi, vous savez, mais...
Oui, mais enfin, tu as quand même la possibilité de chanter quand tu veux, de chanter à peu près ce que tu veux.
Oui, mais pourquoi?
Un petit peu.
Ah, mais pourquoi? Parce que maintenant, nous sommes des hommes publics. Mais quand je débutais, je me faisais foutre à la porte des maisons d'édition.
Moi, je n'ai pas ce sentiment-là. J'ai le sentiment de faire relativement ce que j'ai envie.
Oui?
Oui, enfin...
Maintenant?
Non, toujours. En gros, je dis pas que j'ai été heureux tout le temps, hein, ça n'a rien à voir.
Je crois que c'est notre chose.
Mais je l'ai fait à peu près comme j'ai voulu. Enfin,
seulement, c'était plus difficile.
Je pense quand même qu'on est... Nous trois, nous sommes parmi ceux qui peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent.
Oui.
Vous êtes... Enfin, ce qu'ils veulent.
Oui.
On va pas quand même aller en scène menacer le public, quoi, ou lui tirer dessus à la mitraillette, bien sûr.
Bien sûr.
Ce qu'on veut en restant dans certaines limites, avec un peu de civilité quand même.
J'ai là sous les yeux une déclaration de quelqu'un qui n'est pas l'ami d'au moins deux d'entre vous. Enfin, je crois pas, du moins. C'est Janco.
Qu'est-ce qu'il a déclaré?
Janco a dit que Georges Brassens, c'était zéro, que Léo Ferré,
son point de vue, c'est
son droit. C'est du populisme volontairement poétique.
C'est son droit de dire ça. On écrit des choses, on les lance au public. Chacun a le droit de nous juger, de dire c'est de la merde ou c'est... De...
Ouais.
Nous autres, nous avons...
Il l'a écrit, ça, ou il l'a chanté?
Il l'a écrit, il l'a déclaré.
Non, ça ne vaut rien.
S'il l'avait chanté, ce serait bien.
Non,
mais on pourrait juger de la manière.
C'est pas très grave, vous savez.
Non,
il n'est pas le seul, quand même, à penser ça.
Non,
pas grave.
Ouais.
Non, on est des hommes publics.
Bien sûr, on est à la
merci. On a le droit de dire ce qu'on veut.
Enfin, moi, il ne m'insultait pas là-dedans, mais enfin... un oubli, ça, je sais pas, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, tout ça.
Il a le droit de penser.
Ça fait mal et c'est tout. Je crois que c'est ça.
Ça fait mal.
Ah, moi, quand je lis un truc comme ça, oui, ça, moi, ça me fait mal, oui, parce
que...
Mais c'est tout.
Je suis de l'avis de Georges. Cela dit, je pense que quelqu'un qui fait métier entre guillemets, de créateur, comme ce monsieur-là, qui est un auteur, qui est un romancier, un auteur dramatique, n'a pas le droit de juger des gens qui font le même métier que lui.
Oui.
C'est tout. Mais non, s'il le fait, il prend ses risques, il faut y faire.
Bon, il a donné son opinion.
Ah, c'est son
droit quand même.
C'est ça,
oui. Ça ne fait pas plus mal que quand un type vient, ça m'est déjà arrivé. Il me dit, j'aime pas vos chansons, quoi. Ça m'est déjà arrivé.
Ben oui,
je le sais bien, quoi, que des gens n'aiment pas mes chansons, et alors.
Ah oui, moi je les fous dehors parce que je trouve qu'ils sont très culottés de rentrer dans la loge pour le dire.
Ah oui, mais quand même.
C'est pas possible ça.
Oui,
non.
Est-ce que tu veux bien tweeter?
Moi, parce que moi je pourrais pas être culotté comme ça. Je peux pas supporter, moi.
Moi je supporte. Mais tu t'y exposes, du moment que tu viens sur la place publique pour raconter tes trucs, tu t'exposes à ce que des gens.
Bien sûr, bien sûr. C'est logique.
En gueule. Ah, moi je sais pas, vous êtes.
Vous n'allez pas dire à quelqu'un que vous n'avez pas aimé ce qu'il a fait?
Je pourrais pas.
Ben non, bien sûr.
Je pourrais pas.
Vous savez, ils sont trop fragiles pour aller leur dire.
Et puis, parce
ça,
et puis on sait
qui,
aussi.
Celui qui le reçoit, celui qui le dit.
Non, celui qui le reçoit.
Je sais pas.
Quel droit va-t-on attenter au rêve des hommes?
On sait bien que ça n'a pas de raison.
Il ne peut pas faire ça. Cela dit, moi, ça m'arrive très souvent qu'on vienne me le dire ou des choses là. Et je l'écoute. Et ça me fait très mal, mais je l'écoute. Et j'essaye de me mettre à la place de l'homme. Et je n'arrive pas parce que. Parce que
tu ne peux pas te mettre à sa place.
Oui, parce que d'abord, on n'arrive pas. D'abord, si c'était mis à ma place, il ne me le dirait pas, ça, voilà. Bien sûr. Et qu'il ne faut pas. Et même un type qui vous insulte, il ne faut pas l'insulter lui, parce que lui-même, s'il vous insulte, c'est qu'il en a besoin. C'est qu'il est lui-même trop fragile, trop vulnérable, c'est qu'il a trop mal à quelque chose, c'est pour ça. Il n'y a pas d'homme méchant. Il n'y a que des peureux, il n'y a que des couillons. Il n'y a que des hommes qui ont peur. Un homme agressif est un homme qui a peur, toujours. Et un type qui vient vous insulter ou qui vous insulte comme ça, c'est qu'il a peur à quelque chose, c'est qu'il a mal à quelque chose et que nous ignorons. Et qu'il ignore lui, sans quoi il se trouverait sans doute un autre remède.
Bon, je crois que vous avez tous, à un moment donné ou à un autre de votre existence, ou même encore maintenant, flirté avec le mouvement anarchiste, enfin les mouvements libertaires. Ou même vous l'êtes encore, comme Léo Ferré. Pour Brassens, ça a été, je crois, une époque. Pour Brel, ça a été un surnom. Pour Ferré, c'est presque une cause militante, enfin un prétexte à des récitals presque insurrectionnels.
Non, mais je ne suis pas militant, je ne peux pas être militant parce que...
Et chanteur.
Non, je trouve que je ne peux pas militer pour quelque idée que ce soit, car je ne serai pas libre. Mais je pense que tous les deux, ils sont comme moi, parce que l'anarchie, c'est la négation de toute autorité d'où qu'elle vienne. Et je crois que ce sont les exemples vivants de gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne. Alors il n'y a pas de problème, moi je ne suis pas un artiste plus
moi j'ai milité chez l'autre.
C'est un anarchiste, c'est lui. Ça se sent dans tout ce qu'il fait. Seulement, évidemment, c'est un problème qui est difficile parce que d'abord l'anarchisme a fait rigoler tout. D'abord, ça fait peur aux gens à la fin du 19e siècle parce qu'il y avait des bombes. Hein. Bon, il le sait bien, lui. Bon. Après, ça fait rigoler les gens. Parce que l'anarchisme, puis le mot anarchiste, ça a pris un goût mauvais dans la bouche des gens. Et puis, depuis quelques mois, enfin, singulièrement depuis le mois de mai. C'est idiot de dire ça, mais c'est vrai, ça existe depuis le mois de mai, les choses sont remises en place. Et puis, je vous assure que les gens, quand vous prononcez le mot anarchie ou anarchisme, même en scène, ils rigolent plus. Ils rigolent plus, puis et la plupart des gens sont d'accord, et puis ils veulent savoir ce que c'est. Et
mais c'est difficile à expliquer, les anarchistes eux-mêmes ont du mal à l'expliquer. Parce que moi, quand j'étais au mouvement anarchiste, j'y suis resté 2-3 ans. J'ai d'ailleurs jamais rompu avec, mais enfin, je ne militais plus comme avant.
Oui.
Je faisais de libertaire à une époque, là, en 45, 46, 47. Chacun avait de l'anarchie une idée tout à fait personnelle. C'est ce qui d'ailleurs est exaltant dans l'anarchisme. C'est que il n'y a pas quand même un véritable dogme. Vous voyez,
voilà.
C'est au départ un refus.
C'est une morale, c'est une façon de concevoir la vie. C'est difficile à expliquer, je n'en serai pas.
Une priorité de l'individu.
Oui, ça bien sûr.
Voilà, et puis je crois que c'est une morale du refus. Une morale du refus, car s'il n'y avait pas eu quelques énergumènes au long des millénaires qui n'avaient pas dit non à un certain moment, nous serions encore dans les arbres.
Moi, je suis tout à fait pour des gens qui ne se considèrent pas comme inadaptés et qui s'adaptent comme ils peuvent et collectivement.
Bien sûr.
C'est ça que je voulais dire.
En
ce qui me concerne, moi, je ne désapprouve jamais rien. Les gens font à peu près ce qu'ils
veulent. Oui, oui.
Alors, je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord.
C'est ça. C'est ce que je voulais dire.
On m'a souvent reproché de ne pas vouloir refaire la société parce que j'avais dit ça, je ne me sentais pas capable de la refaire. Si je me sentais capable de la refaire, la société, si j'avais les solutions collectives, je me
mène... Qui a la solution collective?
Il y en a qui prétendent l'avoir.
Oui, je sais.
Dans le monde actuel, il n'y en a pas beaucoup qui semblent, qui la détiennent. Mais enfin, on m'a accusé, moi, justement, de ne pas. Mais c'est parce que je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Oui.
Si je savais ce qu'il faut faire, si j'étais persuadé qu'en tournant à droite ou à gauche, en faisant ceci et cela, le monde va changer, vous pensez bien que je le ferai, je la sacrifierai, ma petite tranquillité.
Bien sûr.
Mais c'est parce que je n'y crois pas tellement.
Oui. Et vous, Léo Ferré, vous croyez la même chose?
Moi, je suis moins lyrique que lui, quand même, parce que
Toi, tu es complètement désespéré.
Oui.
Voilà, c'est ça.
Ne pas crier haro sur le baudet au moment où tout le monde crie haro sur le baudet, c'est une forme d'engagement comme une autre. Vous voyez, il y a quand même ces...
Moi, je trouve que Georges, dans son cœur, je dis bien dans son cœur, il milite davantage que moi, bien par sûr. Exemple. Parce que moi, je crois pas à des choses auxquelles il veut encore bien vouloir croire.
Moi, je fais semblant d'y croire. Quand l'amour s'en va, on fait un peu semblant d'y croire encore et ça le fait durer encore un petit peu.
Non, quand l'amour s'en va, il est déjà parti depuis longtemps.
Oui, d'accord.
J'ai été élevé dans un collège religieux, j'ai été à la messe pendant 8 ans. J'ai servi la messe pendant 8 ans, j'ai été enfant de cœur, et voilà.
Ah oui,
je ne vais plus à la messe, évidemment, depuis cette époque-là.
Ah ben, Brel aussi, d'ailleurs. J'ai été élevé dans un collège, j'ai servi la messe pas 8 ans, parce que je voulais juste acheter un vélo. Avec... Alors, non, j'ai servi la messe le temps d'un vélo.
Moi, j'ai été scout, je crois. J'ai été scout de France.
Ah, j'étais scout, moi.
Oui, mais
pas de France, moi. Ah. C'est scout belge.
Non, mais c'est la même chose.
Oui, pareil.
Ne croyant pas, il m'est difficile d'en parler, le soir.
Moi aussi, enfin, ça me semble difficile.
Alors, Dieu, c'est un fétichisme, alors?
Oh non, on n'est pas fétichiste, les autres.
Non, pas vous, mais ceux qui croient.
Nous, on est fétichiste avec les femmes.
Dans une certaine mesure, oui, c'est une forme de fétichisme.
C'est une forme de fétichisme.
Quelqu'un l'a appelé le grand fétiche, Dieu.
Ouais. Oui.
Ça, moi, je ne peux pas en parler, parce que j'en parle beaucoup dans mes chansons, d'ailleurs, mais enfin, uniquement, parce que pour me rendre...
C'est ça.
Pour qu'on comprenne ce que je veux dire.
Oui. Pour rentrer dans le sens commun.
Oui, parce qu'on chante pour des gens qui y croient. Bon, c'est ça, oui.
Mais l'être humain isolé ne vous fait pas peur.
Non.
L'homme, un homme ou un public.
Non, ça, le public ne vous fait pas peur quand même. C'est pas grave, ça, le public.
Vous aimez sa fréquentation,
quand même moins grave.
Il vous est nécessaire, public, en tant que chanteur?
Vous savez, quand on écrit des chansons pour les autres, on a besoin quand même d'être entendu, on a besoin des autres, ça. Moi, je n'aime pas tellement passer en scène, mais j'aime bien faire des chansons. Quand même, quand je les fais, je sais très bien que je vais les chanter en public. Je n'aime pas passer en scène parce que c'est mon caractère, c'est ma nature, parce que je suis gêné en scène. Mais ça me fait quand même plaisir, quoique.
Et ces 2 ans, entre le moment où vous avez quitté la scène, Jacques Brel, et celui où vous êtes revenu...
Pointé, on l'a quitté ensemble, la scène, à peu près, à la même époque.
Pas pour les mêmes raisons.
T'as l'impression qu'il n'est pas revenu sur la même scène.
Ah, ben non, je
ne sais pas. Il n'est pas revenu sur la même scène.
Vous
avez retrouvé un public.
Oui, mais enfin, ça...
Il ne fait pas du tout la même chose qu'avant.
Mais c'est pas pareil.
Mais pendant ces 2 ans sans public, vous avez manqué quelque chose ou quoi?
Non. C'était pour faire autre chose.
Voilà.
Moi, je comprends, parce que je l'ai voulu un moment, parce que de partir.
Oui.
De plus chanter. Je ne comprenais pas parce qu'il aime chanter, Brel, ça se voit quand il chante, ça se sent, il a une présence extraordinaire. Et je me dis, mais pourquoi? Et puis j'ai compris. Et j'ai compris en faisant une chose que je n'avais jamais faite. Moi, j'ai longtemps chanté, pendant 3 mois, presque sans m'arrêter. Et lui, il a fait ça pendant 3 ans. Eh bien, on ne va pas de là 3 ans, ce qu'il a fait pendant 3 ans, je comprends qu'il soit...
Pas 3 ans, plus que 3 ans.
Je sais pas, je crois pas.
C'est pour ça que c'est ça. J'ai eu 11 ans à 325 tours de chant par an.
Mais est-ce que c'était prémédité ou est-ce
oui,
que...
Oui, c'était très prémédité.
Oui. C'est pas venu du jour où vous
enfin,
êtes allé voir...
Il n'a jamais travaillé que depuis qu'il s'est arrêté de passer en public.
Bah, autre chose.
Est-ce que parfois vous n'êtes pas ennuyé à la pensée que les gens puissent vous assimiler, vous Georges Brassens, ou vous Léo Ferré, ou vous Jacques Brel, à tel personnage de vos chansons?
Non.
Ça, identifié.
Ça m'est également personne.
Lui, ça ne lui est pas arrivé, mais moi, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Parce que moi, je suis un type gentil et je ne suis pas un ours, comme on dit. J'aime bien les gens, j'aime bien les copains comme ça. Et on m'assimile à mes chansons, on me dit que je suis un type dégueulasse, un type horrible et tout ça. Ça me fait de la peine.
Pourquoi? Parce que vos chansons sont horribles?
Ben non, je ne sais pas, parce qu'on m'assimile, je suppose, et puis parce que...
Non, ça, c'est une légende, ça. C'est pas...
Mais les légendes, il y a des légendes qui sont tenaces.
Oui, mais on a tous relativement...
Ah, ouais. Ah, mais ça arrive, ça, c'est énorme. Les choses, moi, ce qui n'est pas vrai, ça m'emmerde. Vous comprenez? Ça me gêne.
Que Ferré a plein d'espoir.
Ben, j'ai l'espoir que les gens soient...
Tu n'aimes pas qu'ils confondent tes plaintes,
surtout
qu'ils les
gens,
prennent pour des cris.
Non, mais c'est les intermédiaires, c'est pas les publics. Hein, c'est les gens qui sont entre nous et le public. Ce sont souvent des gens...
Les journalistes.
Oui, les journalistes, il y en a de bons aussi, il y en a de mauvais, il y a des gens qui sont talents, il y a des gens qui ont des talents. Il n'y a pas que les journalistes, il y a des gens qui sont dans les, dans les postes de radio, il y a des gens qui sont... ce sont ce que j'appelle les autocenseurs, les gens qui censurent avant que... Vous savez, je vais me faire engueuler si je passe ça, vous savez que dans tous les postes de province, l'autre jour j'ai vu quelqu'un qui venait me voir, il y a des postes de province où il y a la discothèque, il y a des disques de moi qui sont barrés au poinçon, comme ça, en les ayant interdits. Vous savez que, c'est, que la censure, il n'existe pas de censure en France. Vous savez que je pourrais poursuivre ça et attaquer ça en Conseil d'État pour
oui.
excès de pouvoir, enfin, détournement de pouvoir en tout cas. Et voilà, quoi, c'est des choses comme ça qui m'emmerdent. Vous voyez, c'est ça. Les gens qui sont entre nous et le public. Parce que le public est beaucoup plus enfant qu'on le croit en définitive.